Chapitre 3. Monsieur Constant, échalot aux écoutes, la maison de santé. Madame Samaillou avait évoqué une bonne fée. La bonne fée venait-elle au commandement? Échalot n'était pas éloigné de cette opinion et ouvrait déjà de grands yeux. Dans le monde entier, il n'y a pas de pays plus ami du merveilleux ni plus crédule que la foire. La porte roula sur ses gonds branlants. Ce ne fut pas une fée qui entra, mais bien un homme de forte carrure, boutonné de haut en bas, dans un de ces pardessus qu'on appelait des redingotes à la propriétaire. Le nez de cet homme brillait comme un rubis par-dessus les plis d'une vaste cravate en laine tricotée. Il portait un chapeau évasé par en haut et dont les larges bords se cambraient selon la forme dite bolivar. Il avait aux mains des gants fourrés, une belle paire de lunettes d'or sur le nez et des socques articulées par-dessus ses souliers. « Suis-je au bout de mes longs voyages ? » demanda-t-il en franchissant le seuil. « Est-ce ici le séjour de Madame Veuve Samaillou, dite Maman Léo, première dompteuse cosmopolite et directrice des prestiges parisiens réunis aux animaux féroces par privilège de l'autorité ?» Ceci fut débité avec une emphase moqueuse qui rappelait assez bien le ton de l'arracheur de dents poussant son boniment entre deux « Allez la musique !» Madame Samaillou mit sa main étendue au-devant de ses yeux, un peu éblouie par les larmes. « C'est moi, la première dompteuse, » dit-elle rudement. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Échalot, qui s'était reculé jusqu'à son lion, examinait le nouveau venu à la dérobée et se disait « Je ne le connais pas, cet oiseau-là, mais c'est drôle, il y a des têtes qu'on croit toujours avoir vues quelque part. » L'étranger repoussa la porte et fit quelques pas à l'intérieur de la baraque. « Est-ce qu'on pourrait avoir l'avantage d'obtenir un tête-à-tête avec vous » demanda-t-il. « Je ne suis pas en humeur de plaisanter, » commença la dompteuse. « Ni moi non plus, » interrompit le nouveau venu. « J'ai ouï conter que vous aviez assommé feu Jean-Paul Samaillou, votre mari, en jouant avec lui de bonne amitié. J'espère vivement que nous ne jouerons pas ensemble. Mais j'ai des choses importantes à vous dire et vous seul devez les entendre. » La veuve le regardait d'un air sombre. « L'homme, » dit-elle en contenant sa colère, « autant voudrait agacer un tigre que de me caresser à rebours un jour comme aujourd'hui. Qui êtes-vous ? » L'étranger prit une chaise qu'il approcha du poêle, contre lequel il mit ses socques. Échalot faisait mine de préparer son biberon pour le petit, mais il songeait « Je me méfie, c'est comme le soir où Amédée me mena jouer la poule à l'estaminet de l'épicier. Pourquoi donc que je pense justement à cela, moi ?» L'inconnu donna un petit coup de doigt sur ses lunettes d'or et dit en chauffant ses pieds avec un évident plaisir « L'hiver s'annoncerait de 5 degrés chez l'ingénieur chevalier au commencement de novembre, et je fais la route de Saint-Germain aller et revenir pour avoir votre adresse. Je ne sentais plus mes orteils. » Il ajouta, en baissant la voix tout à coup, « Mais c'était une fantaisie de la pauvre damoiselle Valentine, et madame la marquise m'aurait tout aussi bien envoyé à Pékin qu'aux loges. « Emmène ton mioche dans le coin là-bas, » dit la veuve à Échalot, en lui montrant l'endroit le plus reculé de la baraque. « Je peux m'en aller tout à fait si je suis de trop, » murmura le bon garçon, avec sa soumission ordinaire. « Fais ce qu'on te dit, et ne raisonne pas. » Échalot emporta aussitôt Saladin à l'endroit désigné et se mit à causer tout bas avec lui, comme si l'enfant avait pu le comprendre. « Ça s'embrouille, » murmurait-il, « tu vas être content, toi, farceur, car je parie bien qu'il ne sera plus question de t'enfler la caboche d'ici longtemps. La patronne n'a pas de chance tout de même. Au moment d'établir une si belle boutique, et on aurait fait de l'argent avec la chose des deux siamois attachés naturellement par le ventre. Des tas d'argent !» Malgré sa bonne envie d'obéir à la patronne, en se montrant discret, son regard ne pouvait se détacher de l'étranger, et il en revenait toujours à penser « C'est étonnant, je jurerais que je ne l'ai jamais vu, et il me semble à chaque instant que je vais retrouver son nom. » Madame Samaillou quitta sa chaise et vint se mettre debout auprès du poêle. « Je vous ai demandé qui vous êtes, » dit-elle en baissant la voix. « Mais s'il ne vous convient pas de me répondre, c'est égal. » Je suis dans la tristesse, et le peu que vous m'avez dit m'a donné un espoir. C'est de Fleurette que vous avez parlé, n'est-ce pas? Je parlais de mademoiselle Valentine de Villanove. Et... La dompteuse rappela à sa mémoire le récit de Monsieur Baruch et murmura « Valentine de V, c'est bien ça. » Ou bien encore, poursuivit l'étranger, Valentine d'Arx, car la pauvre malheureuse enfant, depuis qu'elle est folle, s'est mise en tête que c'est là son vrai nom. « Folle ?» répéta Madame Samaillou, dont le souffle s'embarrassa dans sa poitrine. « Et elle croit donc être la femme de l'homme qui est mort ?»« Non, fit l'étranger, elle croit être sa sœur. Si vous ne savez rien, je vais vous en apprendre de belles. » « Mais, interrompit la veuve, si elle est folle, on n'a pas gardé en prison. »« Parbleu, elle n'a jamais été en prison. Et Maurice ?»« Celui-là, c'est une autre paire de manches. Mais asseyez-vous, bonne dame, vous ne tenez pas sur vos jambes, parole d'honneur. Et maintenant que j'ai les pieds chauds, nous allons nous mettre à l'aise en buvant un verre de vin, si vous voulez. » Il se leva et prit le bras de la veuve, qui chancelait en effet. « Vous avez affaire à un bon enfant, vous savez, » continua-t-il en la ramenant vers la table. « Nous ferons une paire d'amis tous deux, j'en suis certain. » Ça m'a amusé en commençant de poser en casseur vis-à-vis d'une luronne de votre numéro, mais vous n'êtes qu'une femme après tout, puisque vous pleurez, et je reprends au vis-à-vis de vous la galanterie de mon sexe. » Il aida la dompteuse à s'asseoir en ajoutant « Vous ne me demandez plus qui je suis en faisant les gros yeux, alors je vous le dis, ni chiffonnier ni prince, à peu près le milieu entre les deux. Monsieur Constant, officier de santé et plus avisé que bien des fainéants qui ont passé leur thèse, premier aide préparateur dans la maison du docteur Samuel, dont j'ai la confiance, et qui me fait faire tout ce qui ne concerne pas mon état, spécialement la chasse à la dompteuse, car voilà 3 fois 24 heures que je cours sur votre piste comme un osage dans les forêts vierges de l'Amérique du Nord. Pas bien riche avec cela, mais amateur de ce qui brille et portant des lunettes de chrysocale avant de les troquer contre des lunettes d'or. Est-ce de la franchise, ça? Ambitieux pas mal et nourrissant l'espoir que l'aventure de la petite demoiselle pourra me pousser dans le monde, puisqu'elle m'a déjà mis en relation avec des gens que je n'aurais jamais approchés sans cela. Exemple, madame la marquise d'Ornans, madame la comtesse Corona, un joli brin, celle-là où que le diable m'emporte, le colonel Bozzo, qui est 10 fois millionnaire, monsieur de Saint-Louis, qui succédera peut-être à Louis-Philippe et d'autres encore. « Je vous en prie, » prononça tout bas la veuve, « parlez-moi de Fleurette. »« Et de Maurice, pas vrai ?» interrompit Monsieur Constant avec un bon gros rire. Oh, « Vous n'êtes plus toute jeune, mais il y en a de plus déchirés que vous, et il paraît que le lieutenant est joli comme un amour. Moi, je ne le connais pas, je dis seulement que s'il est moitié aussi beau que mademoiselle Valentine est belle, ce doit être un Adonis. Ne vous impatientez pas, j'arrive à l'objet de ma visite. » Son doigt martela par 3 fois un petit coup bien espacé le milieu de son front, et il ajouta « Le docteur Samuel dit que ça pourra guérir avec des soins et du temps, mais elle l'est tout à fait. »« Pauvre Fleurette !» balbutia la veuve, qui resta bouche béante. « Et là suis-je, comme un beau petit lièvre, et soyons justes, il y avait bien de quoi toquer une jeune personne de cet âge-là, quoiqu'elle n'ait pas été élevée dans du coton. Mais ne vous faites pas trop de mal, vous savez, on la soigne à la papa, et il n'y en a pas deux comme le docteur Samuel dans Paris pour traiter les maladies de cette espèce-là. » Elle n'est pas méchante, tout le monde à la maison l'adore, tous les jours elle reçoit des visites de vicomtes, de baronnes et de marquises, elle mange bien, elle boit bien, elle dort bien. Folle, répéta pour la seconde fois madame Samaillou, car elle avait cru d'abord à une exagération de langage. Tout à fait folle. Monsieur Constant hocha la tête gravement en signe d'affirmation et il y eut un silence. Échalot ne travaillait plus depuis que le nouveau venu avait prononcé le nom du colonel Bozzo. Échalot le dévorait des yeux et prêtait attentivement l'oreille. Ni madame Samaillou ni monsieur Constant ne faisaient attention à Échalot, qui était à demi caché derrière un poteau. Le temps avait marché en ces journées de novembre. Elles sont courtes, la baraque commençait à se faire sombre. Monsieur Constant et la dompteuse étaient assis en face l'un de l'autre. Monsieur Constant, qui avait l'air d'un homme tout rond, très disposé à prendre ses aises, avait versé, sans plus de façon, du vin dans les deux verres. Oh, je ne suis pas plus bête qu'un autre, reprit-il, quoiqu'on n'ait pas encore songé à moi pour l'Académie des sciences. Mais quant à bon garçon, ça y est, des pieds à la tête. Vous verrez que nous serons camarades. À votre santé, maman Léo, c'est comme ça que la petite demoiselle vous appelle. La dompteuse le regardait d'un air indécis. C'est vrai que vous avez l'air bonne personne, dit-elle, et si vous êtes venu chez moi, ce n'est bien sûr pas pour me faire du chagrin, mais vous me parlez comme si je savais quelque chose, et je ne sais rien de rien. Pas possible, s'écria monsieur Constant, la foire des loges n'est pas le bout du monde, et les journaux ont assez radoté là-dessus. Aujourd'hui même, répliqua la dompteuse, aujourd'hui seulement, j'ai appris ce que les journaux ont pu dire. Ce serait trop long de vous expliquer pourquoi je restais dans l'ignorance. J'avais beaucoup d'ouvrages, et puis peut-être que je ne regardais pas autour de moi de peur de voir, car c'est bien certain que depuis des semaines, je ne me suis jamais levé sans avoir un poids sur le cœur. On dit qu'il y a des pressentiments. Mais ce qu'on m'a rapporté tout à l'heure, c'est l'histoire du meurtre dans la chambre garnie de la rue d'Anjou. Tout ce qui a suivi, je l'ignore, et si c'est un effet de votre bonté, je voudrais bien le savoir. Comment donc, fit l'officier de santé, mais c'est tout simple ça. Figurez-vous que je vous aime déjà à tout plein, maman Léo. Je suis entré ici, croyant avoir affaire à un gros hérisson de casseuse de cailloux, et vous êtes douce comme un petit agneau. Nous allons donc commencer par le commencement. Attention, vous avez beau avoir de la peine, ça va vous amuser. D'abord, il n'y a pas eu de meurtre, rue d'Anjou. Ah, s'écria la veuve, j'en étais sûr. Parbleu, ça tombe sous le sens. Les tourtereaux n'étaient pas là pour le plus grand plaisir du juge d'instruction Remy d'Arx, mais ils avaient fait dessein de se périr ensemble par des espoirs amoureux, voilà tout. L'autre juge d'instruction, celui qui a succédé au défunt Remy d'Arx, monsieur Perrin Champin, est un fin finaud de la finauderie, qui a des yeux par devant, par derrière et sur les côtés. Un vrai chien de chasse, quoi. Il n'a pas seulement baissé le nez vers cette piste-là. Et quand madame la marquise est allée le voir pour lui demander sa protection en faveur de la demoiselle, il a répondu « Dormez sur vos deux oreilles, je pense bien qu'il n'y a que des roses blanches et des fleurs de lys dans l'aventure de mademoiselle votre nièce. » Mais ça regarde un conseil de famille bien plus que la cour d'assises. Mais alors, dit la veuve, que son grand espoir étouffait, Maurice aussi doit être à l'abri. Pour le fait divers de la rue d'Anjou, oui, maman, reste seulement la mauvaise plaisanterie de la rue de l'Oratoire, 6, chambre numéro 18 au second. Vous voyez si je suis ferré sur ma géographie. Savez-vous ce que c'est qu'une commission rogatoire, vous? Non, répondit la veuve, je ne sais pas grand-chose. Allez, monsieur Constant, buvez donc, si vous ne trouvez pas mon vin trop mauvais. C'est ça, et vous allez trinquer avec moi. Une commission rogatoire, c'est quand les juges se dérangent. Et monsieur Perrin Champin s'est dérangé pour venir chez nous, interroger la petite demoiselle. Quand je dis petite, elle a une taille superbe, mais de la voir tomber si bas, ça fait l'effet comme si elle était redevenue une enfant. Vous savez, on se fait des idées sur les gens qui ont de certains métiers. Moi, je me représente les messieurs du parquet avec des têtes de vautours ou de faucons. Eh bien, monsieur Champin, et ça, tout craché, il vous a une paire d'yeux ronds et pointus qui entrent dans le corps comme des vrilles, une grande bouche qui ressemble à une plaie et un nez en lame de sabre. Il avait l'air un peu en rage parce qu'il ne pouvait rien tirer de mademoiselle Valentine, mais il disait à chaque instant « L'instruction n'a pas besoin de cela ». Et il ajoutait « Les deux chambres étaient contiguës, dans l'une Hans Spiegel, dans l'autre l'ex-lieutenant Maurice Pagès. Hans Spiegel avait volé les diamants de la Bernetti qui valaient un demi-million, Maurice Pagès n'avait pas le sou et il était amoureux d'une jeune personne très riche. La porte condamnée qui communique du numéro 18 au numéro 17 garde de nombreuses traces d'effraction et les instruments qui avaient servi à opérer l'effraction ont été retrouvés dans la chambre numéro 18, où l'ex-lieutenant Pagès faisait son domicile. C'est vrai que c'est terrible, balbutia la veuve, dont les tempes étaient baignées de sueur. Et Charlot se demandait « Quel coup monte-t-il et pourquoi tout ce bavardage? C'est quelqu'un d'entre eux qui se fait une tête, puisque je ne peux pas mettre son nom sur sa figure. « Attendez donc, » disait cependant Monsieur Constant, de sa bonne grosse voix toute ronde, « nous ne sommes pas au bout. Et Monsieur Perrin Champin mâchonnait le nom du lieutenant comme s'il avait eu dans le bec un lambeau de sa peau. Ah, celui-là, c'est son état. Et on pouvait bien voir que dans son opinion, le Remy Darx a eu ce qu'il méritait. On ne fait pas comme ça des marchés privatifs sur le dos de la justice. J'entends quand on est magistrat. » Car vous allez bien voir que je n'en veux pas au lieutenant. Mais suivons le fil. Hans Spiegel est égorgé comme un bœuf, toute la maison se réveille à ses cris, on sort ou l'on se met aux croisées, et les gens peuvent voir le lieutenant sortir par la fenêtre même de la victime, voyager le long d'un treillage, passer dans un arbre comme un écureuil, entre parenthèses, vous savez, maman, il était fort en gymnastique, et puis entrer par la fenêtre encore à l'hôtel d'Ornans, où il est finalement arrêté. Pensez-vous que Monsieur Champin a là une jolie affaire pour ce début? La tête de la veuve s'inclina sur sa poitrine. Elle semblait n'avoir plus de sang dans les veines. « Et si on le laisse faire, » ajouta Monsieur Constant, qui changea de ton, « croyez-vous qu'il aura beaucoup de peine à emballer son jeune homme ?» Madame Samaillou releva les yeux sur lui et répéta, pensant l'avoir mal entendu, « si on le laisse faire ?» Farceuse, répliqua l'officier de santé d'un ton jovial, vous deviniez pourtant bien pourquoi je suis venu. Voyons, c'est certain, n'est-ce pas, que vous n'iriez pas mettre votre main au feu de l'innocence du lieutenant Pagès. Ah, vous vous trompez, reprit vivement Madame Samaillou, qui se redressa soudain et dont les yeux brillèrent. J'en mettrai ma main au feu et tout mon corps et tout mon cœur. C'est drôle, fit Monsieur Constant, on croirait entendre la petite demoiselle. Ah, « Parle-t-elle ainsi ? » s'écria la veuve avec élan. « Ah, la chère créature, ah, j'ai donc bien raison de l'aimer, et ne serait-ce point parce qu'elle parle ainsi que vous la croyez folle ?»« Pour cela, et pour autre chose, ma bonne dame, buvez une gorgée, et soyez calme. »« Je mentirais si je disais que je partage votre avis par rapport à l'innocence du lieutenant, mais la question n'est pas là, il s'agit de Mademoiselle Valentine. » Elle nous a tous ensorcelés, et cela est si vrai que moi, qui ai un emploi important dans la maison, voilà 3 jours que je cours la prétentaine pour vous trouver sur un simple désir d'elle. Elle a donc parlé de moi 20 fois plutôt qu'une, à tort et à travers. Maman Léo par-ci, maman Léo par-là, et si seulement je pouvais voir maman Léo. Mais ce n'est donc pas d'une folle, cela, fit la veuve. Vous trouvez? Moi, je suis l'aide du docteur Samuel, et vous ne m'en voudrez pas si j'ai plus de confiance en lui qu'en vous dans les questions de la médecine aliéniste. Nous sommes une spécialité, ma bonne dame. Nous avons un des plus beaux établissements de Paris, et voyez-vous, les fous, ça nous connaît. Quand on pense que la malheureuse enfant a pris en horreur le colonel, son meilleur ami, presque son père, et par-dessus le marché, l'homme le plus respectable de l'univers, quand on pense qu'elle le confond avec un malfaiteur dans son délire, et qu'il lui fait peur, lui, le saint des saints, qu'avez-vous donc ? La veuve venait de faire un brusque mouvement. Son regard s'était porté par hasard vers le poteau derrière lequel Échalot se cachait à demi. Elle avait cru voir, dans les ténèbres qui se faisaient de plus en plus sombres, les regards du bon garçon fixés sur elle avec une expression étrange. Elle était sûre d'avoir distingué son doigt qui se posait sur sa bouche comme pour lui envoyer un avertissement ou un signal. « Je n'ai rien, » répondit-elle à la question de Monsieur Constant. Celui-ci poursuivit. « Ça ne vous frappe pas ce que je vous dis là, mais si vous connaissiez seulement le colonel... » « Je le connais, » repartit la dompteuse. « C'est lui qui vint à la baraque avec cette marquise. » « Juste, et qui vous donna de l'argent pour avoir si bien traité sa nièce ?»« Et pour l'emmener, » murmura Madame Samaillou. Ben, « Comme de raison. Chez vous, dis donc, ce n'était pas beaucoup la place d'une héritière de noblesse. Mais j'en reviens à mes moutons. La pauvre demoiselle est pour Madame la marquise d'Ornans comme pour le colonel. Elle ne veut plus être sa nièce. Elle se croit la sœur de l'homme qu'elle avait consenti à épouser. » « Voilà ce qui est bien étrange, » pensa tout haut Madame Samaillou. Elle n'en démord pas, reprit monsieur Constant. Elle dit à qui veut l'entendre, je suis mademoiselle Valentine d'Arx. Elle se bat contre des fantômes, les accusant d'avoir tué non seulement son prétendu frère, mais encore son père, le vieux Mathieu d'Arx, qui mourut à Toulouse, on ne sait comment, voilà déjà bien des années. Ah, fit la veuve, on ne sait comment il mourut. Ah, ça, demanda monsieur Constant avec gaieté, est-ce que vous donnez dans les imaginations de la jeune fille? Je vous écoute et je tâche de me faire une opinion. Pour ça, quand vous aurez mieux que mes paroles, dit rondement l'officier de santé, car la pauvre chère enfant veut vous voir, et tout ce qu'elle veut, nous le faisons. Comment? S'écria la veuve, on me laisserait aller chez elle? Pourquoi pas? Pensiez-vous donc que nous la tenions sous clé? Vous la verrez, maman, et plutôt que tard, car je suis venu vous chercher pour vous conduire près d'elle. Et Chalot, profitant de l'ombre croissante, s'était insensiblement rapproché. Il écoutait de toutes ses oreilles et semblait en proie à une singulière perplexité. C'est vrai, se disait-il, qu'il change de figure comme de chemise, mais si j'allais me tromper, et pourtant je ne peux pas laisser la patronne se jeter dans la gueule du loup, je ne m'en consolerais jamais s'il lui arrivait malheur. Madame Samaillou s'était levée aux dernières paroles de monsieur Constant. Partons, dit-elle, rien ne me tient ici, je voudrais déjà être auprès de la jeune fille. Minute, minute, fit l'officier de santé bonnement. Il faut que vous ayez votre leçon faite mieux que cela, car un rien, une mouche qui vole, la met dans tous ses états. Asseyez-vous donc encore un petit peu, brave madame. Mais c'est étonnant comme tout le monde l'aime. J'étais bien certain que vous sauteriez sur l'idée de la voir comme sur du gâteau. Elle a un charme dans son petit doigt, c'est sûr. Allumez donc voir un petit bout de chandelle pendant que je vas fourgonner le poêle. Il n'y a pas de bourrelet à vos portes, dites donc. Allume, échalot, ordonna madame Samaillou. Tiens, fit monsieur Constant, qui avait déjà le tisonnier à la main, j'avais oublié ce bonhomme-là. Il ajouta en baissant la voix, ça aurait pu causer un grand malheur si quelqu'un avait écouté les choses qu'il me reste à vous dire. Échalot venait en ce moment vers la table avec de la lumière. En la posant auprès de la bouteille et malgré sa timidité accoutumée, il regarda monsieur Constant bien en face. Les yeux de celui-ci étaient justement fixés sur lui par-dessus ses lunettes. Les paupières d'Échalot se baissèrent et le sang lui monta aux joues. Monsieur Constant allongea le bras et lui toucha l'épaule. Échalot recula. Ma poule, lui dit l'officier de santé, tu as les oreilles longues, je vois ça, et tu voudrais bien écouter la suite. Oh, c'est une bonne et simple créature, interrompit la veuve. Brave madame, fit observer monsieur Constant avec une sorte de sévérité, ce ne sont pas nos affaires que nous traitons ici, et il y a des choses qu'il ne faut pas confier aux innocents. Va-t'en voir dehors si le printemps s'avance, bonhomme. Il ajouta, et souviens-toi que se taire vaut toujours mieux que parler. J'ai ton signalement là. Un petit coup sec frappé entre ses deux sourcils ponctua la phrase. Échalot, sans répondre, se dirigea aussitôt vers la porte. Dès qu'il eut franchi le seuil, il respira longuement et ôta sa casquette comme s'il avait besoin de baigner sa tête brûlante dans l'air froid du dehors. Si c'est lui, murmura-t-il, mon affaire n'est pas bonne, et ce n'est pourtant pas Amédée qui peut suffire à élever Saladin. Il se retourna vivement au souvenir de l'enfant qui restait dans la baraque et fut sur le point de rentrer, mais il n'osa pas. Je m'alignerai avec n'importe qui, fit-il, comme pour s'excuser vis-à-vis de lui-même. J'irai chercher le petit ou la patronne au fond de l'eau ou au milieu du feu. Mais ces gens-là me font peur, quoi, et je n'ai plus de sang dans les veines. Tant que la patronne est là, l'enfant n'a rien à craindre. Je vas guetter. Dès qu'elle sera partie, je rentrerai. Il fit un pas dans la direction de la rue Saint-Denis, ses jambes flageolaient sous lui comme s'il eût été ivre. Il ne fit qu'un pas. Son regard avait rencontré, dans les terrains à droite du tracé de la rue de Rambuteau, un coupé attelé à un cheval noir dont le cocher, immobile, semblait dormir entre les collets fourrés de son carrick. Il ne dormait pas, cependant, car à intervalles réguliers, une bouffée de fumée formait un petit nuage au-dessus de sa tête. Quand Échalot reprit sa marche, ses jambes ne tremblaient plus. Il s'approcha de la voiture en étouffant le bruit de ses pas dans la neige et regarda le cheval attentivement. Et puis, prenant la voix battue et allant les mains derrière le dos comme un passant, il appela tout haut « Ohé, Giovan Battista !» Le cocher tressaillit sous son carrick et tourna la tête sans répondre. « Est-ce que Toulon est l'amitié à sa petite dame dans ce quartier ?» demanda encore Échalot. Le cocher repartit cette fois avec un fort accent napolitain. Eh, « Vous vous trompez, l'ami, suivez votre chemin !»« Pardon, excuse, » fit Échalot qui obéit, « pas d'affront, je vous prenais pour une connaissance. » Et au lieu de continuer vers la rue Saint-Denis, il disparut dans les terrains derrière la baraque de Madame Samaillou. À l'intérieur, la dompteuse avait repris place vis-à-vis de Monsieur Constant, qui disait « Dans ces affaires-là, ma bonne dame, je ne me confierai ni à mon frère ni à mon père. Vous allez bien voir que la moindre imprudence pourrait tout perdre. Le docteur Samuel est un particulier qui ne se dérangerait pas pour le pape, et ça se conçoit, puisque son établissement est en vogue, sa clientèle superbe, et qu'en plus, il a toute une charretée de foin dans ses bottes. Eh bien, depuis que la petite demoiselle est chez nous, il a mis son propre appartement à la disposition de la famille qui va et qui vient là-dedans sans se gêner. Il est amoureux de l'enfant, comme tout le monde. C'est un sort. » Nous sommes à mercredi, dimanche dernier, la famille s'est rassemblée dans la chambre à coucher du docteur, et on lui a demandé son avis. J'étais là, et moi, qui le connais, pour n'avoir point le cœur trop tendre, je peux bien dire que sa voix chevrotait quand il répliqua « C'est un pauvre cœur blessé si profondément que les soins ni les remèdes n'y feront rien. Elle aime, sa vie entière est dans son amour, et si elle perdait celui qu'elle aime, elle mourrait. » « Ah !» fit Madame Samaillou, qui écoutait avec une attention avide. « Ah, je le devine bien, ce médecin-là, j'en ai vu de pareil. Il peut être brusque, il peut être rude, mais il a une bonne âme. »« Ma foi, » repartit Monsieur Constant en riant, « voilà longtemps que je le connais. Je ne m'étais pas trop aperçu qu'il avait le cœur tendre. Mais de voir la demoiselle blanche et belle sur son lit, ça mollirait un caillou. » Voilà donc la famille Auchan, comme vous pensez, après une déclaration pareille. Madame la marquise pleurait comme une fontaine, monsieur de Saint-Louis mouillait son grand mouchoir, et le colonel lui-même oubliait de tourner ses pouces. Vous verrez tout ce monde-là, c'est des grands seigneurs, mais pas trop fiers. Il y a un autre docteur, un docteur en droit, celui-là, ce qui plus est que d'être avocat, et jurisconsulte par-dessus le marché, le plus retors de tous les malins. On lui avait donné l'affaire à examiner comme ami de la famille. Madame la marquise lui a pris les deux mains et lui a dit « Nous n'avons plus d'espoir qu'en vous ». Le bonhomme a répondu « Je n'ai jamais trompé personne, je ne commencerai pas par vous, qui êtes ma société et de mon amitié. De faire acquitter ce jeune gaillard-là par un jury, c'est aussi impossible que de prendre la lune avec les dents. Il y a évidence, on l'a pris la main dans le sac et son affaire est jugée. » Mais alors, s'est écriée Madame la marquise, Valentine va mourir. Et le colonel a ajouté, en s'adressant au docteur en droit, « Je donnerais bien une pièce de 2 ou 3 000 louis à celui qui trouverait le moyen de nous tirer de peine. » « Parbleu, » a répondu le jurisconsulte, « avec de l'argent, on produit des miracles. » « Est-ce qu'on pourrait acheter les juges ou le jury ?» a demandé la marquise. « Les femmes ne savent pas, c'est sûr, mais après tout, si on y mettait le prix, mais n'importe. » Le docteur en droit a répondu, « Ce n'est pas cela que j'entends, je pensais à une évasion. » « Si vous aviez vu comme tout le monde est tombé là-dessus, car ces bonnes gens-là, malgré leur orgueil et leurs armoiries, ne reculeront devant rien dès qu'il s'agira de sauver la petite demoiselle. Vous verrez ça par vous-même. »« Est-ce que vous pensez, » demanda Madame Samaillou, « qu'ils iraient jusqu'à consentir au mariage ?»« Oh, je pense, » répondit Monsieur Constant, « qu'ils iraient encore, comme en procession, avec la croix et la bannière, solliciter humblement la main de l'ex-lieutenant. » « Mais je les aime, moi, ces gens-là !» s'écria la dompteuse. Oh, « Pour être pris, ils sont bien pris. Mais voilà le hic. Vous ai-je dit que tout ça se passait dans la chambre voisine de celle où couche Mademoiselle Valentine ? Non, elle avait tout entendu, juste, et ce fut un coup de théâtre auquel on ne s'attendait pas, je vous en réponds. Il y avait 3 ou 4 jours qu'elle n'avait ni bougé ni parlé, sinon pour prononcer votre nom, ma brave dame, celui de Maurice, et tout doucement, sans presque remuer les lèvres, comme font ceux qui causent en rêvant. Une mine qui aurait sauté au milieu de la chambre n'aurait pas plus étonné la famille que la voix de Valentine de Villanova et s'élevant tout à coup et disant « Je ne veux pas ». « Elle parlait à travers la porte ?» demanda la veuve, dont la voix tremblait. « Non pas, elle avait descendu de son lit toute seule. Toute seule, elle avait traversé sa chambre. Elle avait ouvert la porte sans bruit. Elle était debout sur le seuil, pâle comme une statue de marbre, et si belle qu'on en restait comme ébloui. Elle se tenait droite, elle ne s'appuyait à rien, et personne n'eut l'idée de la soutenir, tant elle semblait forte et solide. » « Il me semble que je la vois, » murmura la veuve. « Oh, pauvre, pauvre Maurice !»« Ah, bien vous faites de plaindre celui-là, car sa vie et sa liberté sont en question. »« Ah, je ne veux pas, » a donc répété la demoiselle. « Il est innocent, je le jure devant Dieu. Il a déjà fui une fois, parce que les innocents ne savent pas se défendre quand le hasard les accuse. Je ne veux pas qu'il se déshonore en fuyant une seconde fois comme un coupable. » « Ah, tout ça est bel et bon, » commença la dompteuse. « Attendez, » interrompit Monsieur Constant, « vous êtes une personne de bon sens, vous savez ce que parler veut dire, mais elle ne possède l'expérience de rien, la pauvre enfant, et en outre elle a son coup de marteau, un fameux. Ne peuvent-ils agir sans elle ? Attendez, voilà quelque chose qui va vous étonner plus que tout le reste, ils sont en correspondance. » « Qui donc ?» balbutia la veuve stupéfaite. « Les deux tourtereaux !» Maurice et Valentine, lui au fond de sa prison, elle entourée comme vous me la montrez, malade, privée de raison. « Ça c'est drôle !» demanda Monsieur Constant d'un air bonhomme. « Comme ça se fait, moi, vous comprenez, je n'en sais rien, mais c'est comme ça, et nous le tenons d'elle-même. » Il faut donc qu'il y ait dans l'établissement du docteur Samuel des employés qui... Ah, sans doute, bonne dame, ce ne sont pas des pigeons voyageurs qui portent leurs messages, mais leurs messages vont et viennent, et notre cher malade a formellement déclaré ceci. À nous deux, nous n'avons qu'un cœur, tant que je ne voudrai pas, Maurice ne voudra pas. Du revers de sa main, Madame Samaillou essuya une grosse larme qui roulait sur sa joue. L'homme de loi, reprit M. Constant, a voulu plaider auprès d'elle. Il a démontré, clair comme le jour, non seulement que Maurice serait pour le moins condamné à perpétuité, mais encore qu'une fois la chose faite, il n'y aurait plus à y revenir à cause des difficultés posées par la loi française à la révision des procès criminels. Il a cité Le Surc et bien d'autres, mais rien n'y fait parce que la petite avait son idée. J'abrège maintenant. On l'a recouché, bien entendu, et le conseil de famille s'est réuni à un autre étage. Là, pendant que la marquise se tordait les mains et que les autres jetaient leur langue au chien, le colonel, qui est fin comme l'ambre, a ouvert tout doucement l'avis de vous faire chercher et de vous employer à persuader la petite. « Ah !» fit Madame Samaillou, étonnée elle-même du mouvement de défiance qui la prenait. « Mais il a semblé que c'était de la manne dans le désert, » poursuivit Monsieur Constant. « Tous ceux qui étaient là avaient saisi maintes fois votre nom sur les lèvres de la chère enfant. On savait en outre de quelle affection vous entourait le lieutenant Maurice Pagès. Séance tenante, on m'a dépêché sur vos traces, qui n'étaient pas des plus aisées à trouver, soit dit sans reproche. Mais enfin, je vous ai rencontré, vous voilà suffisamment renseigné sur ce qui se passe là-bas. » « Voulez-vous être l'auxiliaire d'une noble et malheureuse famille qui cherche à sauver son enfant ?» La veuve fut quelque temps avant de répondre. Elle songeait. « Verrai-je Valentine sans témoin ?» demanda-t-elle enfin. « Ah, bonne dame, » répliqua M. Constant avec effusion, « vous ne feriez pas des questions pareilles si vous connaissiez tout ce monde-là. Venez d'abord. Si quelque chose vous chiffonne, exigez des explications sans vous gêner, on vous les donnera. Exigez un tête-à-tête avec la demoiselle. Ils s'en iront tous comme des enfants qu'on renvoie. Mais venez, parce que, vous concevez, je ne suis pas le maître, et la famille seule peut vous dire ce que vous aurez à faire quand on vous enverra auprès du lieutenant. Je verrai Maurice, s'écria la veuve, dont les deux mains s'appuyèrent d'elles-mêmes contre son cœur. Ça va de soi, puisque vous serez notre intermédiaire. Vous demanderez vous-même le laissez-passer, c'est la règle, mais on fera le nécessaire pour que vous n'ayez pas de refus. Madame Samaillou s'était levée, mais elle jeta un regard hésitant sur le sans-façon excentrique de sa toilette. Oh, que cela ne vous arrête pas, dit Monsieur Constant. La veuve se redressa de toute sa hauteur. Vous avez raison, dit-elle, s'inquiéter, je suis ce que je suis. Ceux qui ne font pas de mal n'ont pas de honte. Marchons. En sortant de la baraque par la porte de derrière, Madame Samaillou ouvrait la bouche pour appeler Échalot lorsqu'elle aperçut le pauvre diable qui se promenait de long en large à pas précipités dans la neige et battant des bras pour se réchauffer. Garçon, lui dit-elle, vous allez rentrer et garder la baraque. L'espoir d'Échalot avait été de parler à la dompteuse tout de suite après le départ de Monsieur Constant. La vue de ce dernier qui s'était mis au devant de la porte et qui nouait autour de son cou son grand cache-nez causa à notre ami un sensible désappointement. « Est-ce que vous allez sortir à cette heure-ci, patronne ? » demanda-t-il en s'approchant. « Par le temps qu'il fait avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» La dompteuse se mit à rire. « As-tu peur qu'on ne m'affronte, l'enflé ? » dit-elle. « Saperlotte, ajouta l'officier de santé, je ne me risquerai pas à ce jeu-là. » Sans y mettre aucune affectation, il barra le passage à Échalot, s'arrangeant toujours de manière à rester entre lui et la veuve. « Je reviendrai de bonne heure, reprit celle-ci, à mesure que les autres rentreront, qu'ils se couchent et qu'on ne me brûle pas de chandelle. » Elle prit le pas que lui offrait Monsieur Constant et traversa ainsi toute la largeur de la baraque pour gagner l'autre porte qui donnait du côté de la rue Saint-Denis. Échalot suivait, la tête basse. « Et où allez-vous, patronne ? » demanda-t-il au moment où elle passait le seuil. « Si on te le demande, repartit la veuve gaiement, tu répondras que j'ai oublié de te le dire. » « C'est que j'aurais bien voulu causer deux mots, commença Échalot. » Mais le couple s'éloignait déjà rapidement. « Allons-nous jusqu'au bureau d'omnibus de Saint-Eustache ? » demanda la dompteuse. « J'ai la voiture de Madame la Marquise, » répondit Monsieur Constant, qui s'arrêta devant le coupé. « Holà, bonhomme » ajouta-t-il en tirant le cocher par son carrick. « Éveille-toi et mène-nous rondement !» La voiture s'ébranla. Échalot ne fit qu'un bond jusqu'au tas de paille où le petit Saladin dormait auprès du lion malade. Il prit l'enfant et le fourra tout d'un temps dans sa gibecière, dont il passa la courroie autour de son cou. Ah, « quand je devrais y perdre ma rate, pensait-il, je vais les suivre. J'ai voué mon existence à Léocadie jusqu'à la mort, sans espoir de lui plaire, et je veux la secourir au milieu de ses dangers, puisque je n'ai pas eu assez d'atouts pour saisir l'opportunité de l'avertir. » Quand il arriva de nouveau à la galerie, la voiture avait disparu. Il descendit les degrés en courant, mais il ne fit pas plus d'une douzaine de pas et s'arrêta pour dire à Saladin, qui hurlait dans la gibecière, « Tu as raison, quoi. C'est encore une inconséquence que j'ai commise de t'éveiller pour rien. Mais je ne pouvais pas te laisser tout seul entre les pattes de la bête, pas vrai? Monsieur Daniel ne vaut pas cher à cause de sa décrépitude et de ses infirmités, mais il aurait pu avoir une idée de manger un morceau d'enfant, et ça me fait frémir rien que d'y penser. » Il se donna un grand coup de poing dans le front. « Ah, quant à avoir reconnu l'olibrius de l'estaminet de l'épicier, reprit-il, j'en suis sûr. À ma place, 6 000 euros auraient parlé, car il a dû touper, à moins toutefois qu'on ne lui aurait donné la pièce pour se taire. Ah, je suis plus vertueux que lui, mais moins capable, et s'il arrivait malheur à cette infortunée belle femme, ah, ce serait le cas pour moi d'en concevoir un regret éternel. » Il rentra dans la baraque et s'assit sur la paille, n'essayant même plus de calmer son petit Saladin qui s'égosillait dans la gibecière. Pendant cela, le cocher, que nous avons vu tressaillir au nom de Giovan Battista, poussait son beau cheval noir sur le pavé, assourdi par la neige. Au sortir des ruelles qui s'embrouillaient encore alors autour des halles, il prit la rue Saint-Honoré et gagna la place de la Concorde. Il n'était pas plus de 5 heures du soir, mais la nuit enveloppait déjà Paris et que le mauvais temps faisait désert. Le coupé de Madame la Marquise s'engagea dans l'avenue des Champs-Élysées, qu'il monta au grand trot jusqu'à la rue de Chaillot. Là, il tourna sur la gauche et redescendit vers la Seine pour gagner ce quartier, si radicalement transformé depuis lors, qui confinait à la montagne du Trocadéro et sortait de Paris par la barrière des Batailles. La maison de santé du docteur Samuel était située dans l'enceinte de la ville, mais elle respirait déjà le grand air de la campagne. Elle pendait sur ces deux bosquets solitaires qui séparaient alors la rampe de Chaillot du pont d'Iéna. Elle avait vu d'un côté sur le Champ de Mars, de l'autre sur les buttes abruptes du Trocadéro, et entre deux, par-dessus les sinuosités de la Seine, elle voyait les arbres de Passy prolongés par les forêts de Clamart et de Meudon. C'était un grand et bel établissement, fondé depuis peu, mais auquel la vogue était venue tout de suite. On pouvait attribuer sans doute ce succès rapidement fait au talent du docteur Samuel. Les jaloux cependant ajoutaient que ce succès était dû, pour la plus grande part, aux nombreuses et puissantes relations du savant médecin. Les jaloux disaient encore, mais tout bas et sans pouvoir appuyer leurs informations sur des preuves positives, que le docteur Samuel, parti d'une position infime, avait grandi tout à coup en poussant au-delà des bornes permises les complaisances professionnelles. Il s'était concilié ainsi de haute gratitude et ses protecteurs étaient en quelque sorte des complices. Mais personne n'ignore que Paris, tout en méprisant la province, partage abondamment les vices étroits et les petitesses envieuses attribuées aux provinciaux. Paris regarde toujours d'un œil mauvais les fortunes trop rapides ou les réussites trop éclatantes. On a supprimé, il est vrai, le bûcher qui brûlait au Moyen-Âge les sorciers, c'est-à-dire l'effort pour le grand contentement de ceux qui jamais ne peuvent être accusés d'inventer la poudre. On ne lapide plus les penseurs victorieux sous prétexte du pacte qu'ils ont pu signer avec Satan, mais pierres et fagots ont été avantageusement remplacés par la calomnie. Hydre qui ne semble avoir perdu aucun croc de sa mâchoire, aucune goutte de son venin depuis le temps de Beaumarchais. Aussi les honnêtes gens fuient-ils à son approche en se bouchant les oreilles, et il arrive cette chose douloureuse que nombre de coquins se faufilent dans le monde à la faveur du discrédit où est tombé le cri de haro. La maison du docteur Samuel se composait de trois parties distinctes, sans compter le pavillon tout neuf, et fort bien entendu comme confort où il faisait son domicile privé. Il y avait le quartier des aliénés, le quartier des malades ordinaires et le quartier des pauvres, appelé l'hospice. Tout était gratuit dans ce dernier asile où le colonel Bozzocorona, si célèbre par sa philanthropie éclairée, et monsieur de Saint-Louis, Louis XVII, son illustre ami, avait fondé chacun 4 lits qu'ils entretenaient de leur denier personnel. La principale entrée de la maison Samuel se trouvait obstruée par de grands travaux de reconstruction. La voiture, contenant M. Constant et sa compagne, s'arrêta devant la porte de l'hospice qui s'ouvrait sur le bouquet d'arbres longeant le chemin des Batailles. Pendant toute la route, l'officier de santé s'était montré galant, bon enfant et presque facétieux. L'esprit qu'il avait était tout à fait à la portée des goûts et des habitudes de la veuve. Quand la voiture s'arrêta, il y avait entre eux un certain degré de familiarité amicale. La brave femme gardait bien pour un peu sa tristesse, ses craintes et même une certaine défiance inspirée par l'aventure dans laquelle on l'engageait. Elle était en effet d'un monde où l'imagination pousse au noir tout de suite, nourrie qu'elle l'est de drames violents et de sanglantes légendes. Mais d'un autre côté, rien ne console, rien n'encourage comme l'action. Toute créature humaine aime à jouer un rôle, et chez les femmes, ce goût grandit volontiers jusqu'à la passion. Léocadie était femme, malgré sa formidable carrure et le talent qu'elle avait de porter des poids de 100 livres à bout de bras. Elle se disait, tout en écoutant les verbeuses explications de son compagnon qui ne tarissait pas, « Ah, c'est un fier numéro qui est sorti aujourd'hui pour moi de la roue. Le bandeau que j'avais sur les yeux s'est déchiré, et je vois clair à choisir ma route. Je voulais savoir, je sais. Si je veux en apprendre davantage, je n'ai qu'à parler, on me répondra, et de plus, au lieu de me fatiguer toute seule au fond d'un trou, sans protection ni connaissance, je vais avoir pour moi toute une société de gens calés, qu'on écoute quand ils parlent et qui ont le bras long. « Eh bien quoi ? » ajoutait-elle en elle-même, répondant à quelques vagues objections de son bon sens naturel. « C'est drôle qu'ils sont venus à moi, je ne dis pas non, mais ça dépend du caprice de ma pauvre Fleurette, qui s'est souvenue du temps où elle n'était pas encore Mademoiselle Valentine et qui a confiance dans le bon cœur de maman Léo. C'est bien celle-là que je ne reculerai pas devant 1000 morts quand il s'agit de notre Maurice. » Et puis, je n'ai pas mes yeux dans ma poche, peut-être. Si je vois quelque chose de louche dans tout ça, c'est à moi de regarder où je mettrai le pied. » Le concierge de l'hospice l'est reçu à la porte et dit à Monsieur Constant, « On est déjà venu bien des fois du grand pavillon, voir si vous étiez arrivé. » « Je ne me suis pas pourtant amusé en chemin, » répondit l'officier de santé. « La demoiselle n'est pas plus mal. » « Toujours de même. » Monsieur Constant fit entrer sa compagne sous une voûte longue et d'aspect triste, quoiqu'elle fût évidemment toute neuve. En passant devant la loge, la veuve y jeta un regard. Dans la loge, il y avait 3 ou 4 personnes, infirmiers peut-être, ou domestiques, qui se chauffaient autour d'un grand poêle de fonte. Un seul homme était assis au milieu de la chambre, les coudes sur la table, juste au-dessous de la lampe qui pendait du plafond. Sa casquette, d'où s'échappaient des cheveux hérissés, cachait à demi son visage, mais la lumière éclairait vivement ses membres athlétiques et l'énorme envergure de ses épaules. À la vue de cet homme, Madame Samaillou fit un mouvement, et M. Constant le sentit, car il tourna la tête avec vivacité. « Bonsoir, Roblot, » dit-il en continuant son chemin. Roblot était sans doute le nom de l'athlète qui ne bougea ni ne répondit. « Est-ce l'homme à la casquette que vous appelez Roblot ?» demanda la dompteuse. « Oui, » répondit M. Constant. « Est-ce que vous le connaissez ? J'ai toujours eu l'idée qu'il avait bien pu être Hercule en foire. C'est un taureau que ce chrétien-là. » « Je ne connais pas ce nom de Roblot, » répondit la veuve, « et j'avais cru remettre un homme qui s'appelle autrement que cela. » Ils avaient traversé la voûte et pénétré dans une cour entourée de bâtiments tout neufs, comme la voûte elle-même. « Ah, c'est ennuyeux, les réparations, » reprit l'officier de santé. « Si la grande entrée avait été libre, vous auriez vu qu'on arrive au pavillon de monsieur le docteur par un chemin aussi beau que le vestibule des Tuileries, mais nous allons être forcés de marcher dans la neige. » « Oh, fit la veuve, je ne suis pas douillette. Est-ce que ce Roblot est un des employés de la maison ?» Non, c'est un des convalescents de l'hospice. Quand ils commencent à aller mieux, on leur laisse beaucoup de liberté, et ils en profitent pour fréquenter la conciergerie. Vous concevez qu'à l'hospice, nous n'avons pas des ducs et des marquis. À l'établissement payant, c'est différent. Quand il fait beau et que notre société se promène dans les jardins, on dirait un coin du bois de Boulogne. La porte située en face de la première entrée fut ouverte et donna accès dans un vestibule que M. Constant traversa sans s'arrêter. Au-delà, c'était un jardin assez vaste et tout plein de grands arbres couverts de neige. « Voilà l'établissement, » dit M. Constant, qui montra, à droite et à gauche, 2 corps de logis éclairés. « Ici, les malades ordinaires, là, les aliénés. » Nous n'allons ni ici ni là. Vous savez, la demoiselle est au bout, dans le grand pavillon. » Ils suivirent un chemin où la neige était déblayée avec soin et parvinrent à une maison de belle apparence dont le perron, tourné vers le midi, dominait tout le paysage parisien. M. Constant sonna et ce fut Victoire, la femme de chambre de Valentine, qui ouvrit. « Ah, Dieu merci, » dit-elle, « voici assez longtemps qu'on s'impatiente. » Et puis elle ajouta, avec une curiosité qui n'était pas exempte d'impertinence, « C'est là la personne ?»« Oui, ma fille, » répondit l'officier de santé, « c'est une personne qui n'a besoin ni de vous ni de moi et qui a droit à votre politesse. Allez nous annoncer tout de suite. » Victoire fit une révérence moqueuse, mais disparut. Madame Samaillou s'étonna de rester toute déconcertée. « Qu'est-ce que ça va donc être quand je serai en présence des dames et des messieurs » murmura-t-elle naïvement, « puisque la chambrière me fait peur. Oh, il n'y a pas insolent comme les valets, répondit monsieur Constant, qui jouait supérieurement l'indignation. Pour un peu, je la ferai flanquer à la porte. Avec le maître, ça ne se ressemblera plus, et vous allez voir comment on va vous mettre à votre aise. Madame veuve Samaillou peut entrer, dit en ce moment Victoire, qui revenait. Maman Léo se sentit prise d'un véritable tremblement. Son négligé de première dompteuse, élégant et cossu, lui semblait à cette heure quelque chose de monstrueux et la brûlait comme si c'eût été la robe de Nessus. Elle fit cependant sur elle-même un effort vaillant et marcha la première, suivie de près par monsieur Constant, qui échangea avec la soubrette un regard de railleuse intelligence.